Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview. Émission que vous pouvez écouter en podcast sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui, nous sommes avec Claire M. Bonjour.
Bonjour.
Claire M., tu es animatrice au projet SPAR. Alors, le projet SPAR, je l'ai découvert ce matin, signifie Strategic Planning for Alpine River. Et donc, c'est un projet conjointement mené par 5 pays d'Europe. Donc, on peut citer l'Autriche, la Slovénie aussi, je crois.
La Slovénie.
La Suisse, la France et le cinquième pays qui
L'Italie.
Est L'Italie. Donc, c'est quand même autour de l'Alpe, hein, du massif alpin. Et donc, vous êtes ici pour nous présenter une programmation autour de la rivière et de l'eau, principalement avec le SMRD, puisque ça, c'est donc le module de la France pour cette participation. Et il va y avoir beaucoup de dates dans le trimestre qui vient, à commencer déjà par un recueil actuellement qui se fait en ligne pour recueillir les propositions des habitants sur l'eau, la rivière, et puis peut-être aussi formuler des ateliers. Quelle est la partie prenante du SMRD dans cet objectif? Et quel est l'objectif, du moins, du SMRD, surtout?
Effectivement, bonjour. Je suis l'animatrice du projet SPER, donc pour le syndicat mixte de la rivière Drôme et de ses affluents, qui est basé à Saillant. Donc, l'objectif du projet, c'est avant tout, pour ces 5 pays que vous avez cités, ou que tu as cités, c'est de tester de nouvelles formes de participation citoyenne. Et nous, plus localement, pour le SMRD, on a vraiment l'ambition d'intégrer les contributions des citoyens de la vallée en amont de la révision du prochain schéma d'aménagement et de gestion de l'eau.
Alors, l'année précédente, vous aviez commencé déjà à recueillir aussi et donner des rendez-vous sur les points d'eau, même de la Drôme, pour recueillir les impressions du paysage et peut-être d'y déceler des améliorations, peut-être aussi.
Effectivement. Le projet SPER, lui, il a débuté fin 2015 et s'achèvera donc cette année en 2018. Et la partie participation citoyenne a démarré, elle, dès mai 2016. Donc depuis mai 2016, on met en œuvre avec les citoyens, et les citoyens ont proposé des actions, des activités tout au long de la rivière et aussi en salle, donc que ce soit des sorties, des observations de la rivière, mais ensemble, des murs d'expression, on a eu des rencontres avec des experts, des interviews de politiciens ou d'acteurs locaux. Voilà.
Ce projet SPER a un coût. On peut peut-être annoncer un peu quand même les moyens que possède le projet SPER.
Alors effectivement, le coût, je ne l'ai pas en tête, je suis bien désolée, sur l'ordre de grandeur, mais c'est un coût important qui est notamment porté principalement sur des salaires, donc des personnes. Derrière, le financement, on est sur des fonds européens à hauteur de 80%, et on parle de cofinancement parce que les 20% derniers sont à la charge du syndicat mixte de la rivière Drôme. Sur les coûts, on a effectivement beaucoup de temps de personnel parce qu'il y a un enjeu derrière aussi de recherche, d'évaluation de ces expérimentations de participation citoyenne. Donc le travail n'est pas seulement de mettre en œuvre une participation, mais c'est aussi de l'évaluer et de savoir quels sont les bénéfices et aussi les points noirs qu'on peut observer chez nous et chez les autres partenaires.
Alors, on parle de coûts, mais le bénéfice en final, quel sera le bénéfice?
Les bénéfices attendus pour nous, c'est localement au niveau du SMRD, c'est d'essayer d'identifier s'il y a des thématiques ou des propositions d'action que le syndicat mixte de la rivière Drôme ne voit pas aujourd'hui, et également avec tous les partenaires hein, techniques, professionnels et membres de la clé, s'il y a des thématiques qui ne sont pas abordées, qui ne surgissent pas des données, mais qui sont plus vécues au niveau des citoyens. Donc ça, c'est vraiment l'objectif du syndicat mixte de la rivière Drôme. Et puis plus largement, c'est d'affiner en fait la gestion de l'eau pour aller vers une gestion intégrée, mais non plus que sur de la donnée physique. Est-ce qu'il y a de l'eau, il n'y a pas d'eau, est-ce qu'il y a des pollutions, mais d'essayer de travailler un peu mieux avec la matière humaine ou l'écosystème et la rivière, d'essayer d'affiner cette gestion-là.
à l'adresse du public et des habitants du Diwa, vous avez mis à disposition un questionnaire disponible jusqu'au 10 février pour recueillir les données donc de chaque habitant. J'indiquerai d'ailleurs l'adresse sur la page de notre station de radio concernant l'interview, parce que c'est une adresse assez compliquée à saisir. Hein, voilà. Après, à la suite, vous proposez des ateliers donc à la rencontre des habitants pour recueillir leurs propositions. On peut peut-être annoncer les dates déjà pour commencer. Oui. C'est-à-dire Saillant, le 2 mars, entre 18 et 20 heures. Je n'ai pas indiqué le lieu, par contre, précis.
On est dans la salle polyvalente, donc au niveau de la poste, derrière l'église.
Ensuite, Alex, le 3 mars, au matin, entre 10h et midi. Et Ponca, en fin de journée, entre 16 et 18 heures. Alors, comment ça consistera, ces rencontres, ces ateliers ?
Ces ateliers, effectivement, arrivent à la fin de la collecte des propositions d'action. On est là pour découvrir avant tout les actions qui ont été proposées, les discuter et essayer de les affiner. C'est-à-dire que quelqu'un peut proposer une action, avoir une représentation personnelle et peut-être en discutant avec d'autres, se dire « Ah, effectivement, on n'a peut-être pas besoin d'autant d'argent ou on a peut-être besoin du concours de citoyens ou pas. » Voilà, essayer d'affiner ces actions. Nous, on a fait ces trois réunions dans le but aussi d'être le plus proche. On a un bassin versant qui est étendu. Et pour les personnes de l'amont, essayer de se rassembler autour de Pontcar, de la partie médiane ou centrale autour de Saillant et Alex sur la partie aval.
Les collectivités participent à ce travail. Vous avez un support ou alors est-ce que vous avez des rapports de conseils, par exemple ?
Alors, au niveau des collectivités, pas directement. Nous, le but est vraiment, cette fois-ci, de travailler non plus avec des élus ou des représentants, mais travailler vraiment directement avec les citoyens. On rappelle souvent en réunion que les personnes présentes ne sont pas là en tant qu'un organisme ou représentent telle association, mais vraiment, elles sont là pour porter leur message individuel. Et c'est là la différence, en fait. Disons que la concertation autour de la gestion de l'eau dans la vallée de la Drôme, depuis plus de 20 ans, elle est présente plus qu'ailleurs.
Elle est exemplaire même,
Elle est même assez exemplaire. On était la première commission locale de l'eau en France, donc la première fois qu'on a un collège de trois collèges qui se rassemblent pour concerter les questions de l'eau, donc à l'échelle locale. Donc là, on travaille depuis plus de 20 ans avec des élus, des représentants d'usagers ou des représentants, mais pas directement avec des citoyens. Et c'est pour ça qu'on aimerait aller un petit peu plus loin par le projet SPER et aller directement vers le citoyen. Donc, pour répondre à votre question, les collectivités ou les élus sont informés régulièrement de l'avancement du projet. À chaque étape, on transmet les informations, l'avancée, les réussites, les difficultés à chaque fois, pour bien que les élus soient au courant de ce qui se passe. Et puis, par contre, on travaille principalement et directement avec les citoyens.
Comme il y a une campagne de recueil de propositions en ligne, vous avez peut-être quelques données déjà sur des avis de population ?
Oui. Alors, pour le projet SPER, on a plusieurs étapes. On a eu la première où on avait choisi de construire ensemble avec les citoyens les étapes de la participation et les règles. Ça, c'était la première. La deuxième, on a fait un état des lieux. Là, on a collecté plus de 600 contributions de plus de 160 personnes différentes. Et là, sur la dernière étape où on collecte les propositions d'action et on vise à faire un plan d'action ou des plans d'action, on a déjà, il me semble, ce matin, une cinquantaine de propositions en ligne et d'autres propositions qui vont arriver, on sait, par papier. Donc pour nous, c'est déjà une grande réussite parce que c'est beaucoup de matière qu'on est attaché à étudier, à prendre en compte. Donc c'est déjà beaucoup, beaucoup de matière.
Et donc, avoir un aperçu de ces propositions, existe-t-il un site internet et son adresse, c'est laquelle ?
Alors pour l'instant, tout le lien sur le site du projet, il est depuis le site internet du SMRD, donc www.rivière-drome.org. Donc là, vous avez tout le lien vers le site du projet SPER. Je ne le cite pas parce que c'est un site qu'on a voulu gratuit, qu'on a essayé de bricoler. C'est un petit peu les limites aussi au niveau technique auquel on a fait face. Mais voilà, on a un site internet qui est là quand même. Et la matière, on la met en ligne au fur et à mesure qu'on l'a, dans la mesure du temps disponible pour le faire. Mais dès qu'on l'a, on le met.
L'équipe du SMRD, c'est une équipe de combien de personnes ?
Le syndicat mixte de la rivière Drôme, aujourd'hui, est une équipe de 5 personnes. Qui est en train de s'agrandir par la nouvelle compétence, la GEMAPI, la gestion de l'eau et des milieux aquatiques pour aider des préventions inondations. Et donc effectivement, là, on a recruté récemment un technicien rivière qui vient en renfort pour l'équipe. Et puis la gestion administrative qui était jusqu'alors gérée par le département revient au syndicat mixte de la rivière Drôme.
Voilà, la gare des Ramières est participante à ce projet ?
Au projet SPER ?
Oui.
La gare des Ramières est partenaire parce que parfois on communique avec eux ou on a fait intervenir des participants avec Jean-Michel Faton, par exemple, de la gare des Ramières, qui est intervenu dans certaines activités, oui, effectivement.
En quoi consiste votre activité, Claire ?
Mon activité, à moi, animatrice, le mot animatrice n'est pas forcément le mieux choisi parce qu'on a une partie d'animation, effectivement, et de facilitation lors des événements publics, mais il y a aussi tout un travail, je dirais, sous-marin, qui incombe au projet européen, donc de remontée de dépenses, d'organisation, de mise en concurrence dès qu'il y a une dépense, de synthèse des résultats et d'organisation d'événements, qui est assez lourde dans le projet, dans le contexte Interreg. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a un objectif aussi d'évaluer dans le contexte de recherche. Donc toute activité est vraiment finement répertoriée et recensée pour que les chercheurs soient à même aussi d'évaluer notre travail. Et nous-mêmes, on évalue notre travail en permanence.
Et pour ça, vous êtes beaucoup sur le terrain ?
Malheureusement, trop peu, je dirais. Trop peu. Et on a, comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, un terrain qui est très étendu. Donc on a un bassin de 50 000 personnes quand même. Donc je dirais pour un processus participatif classique, on a en général un public qu'on dit plus ou moins captif, mais en tout cas dont on connaît les limites. Là, on est sur une expérimentation grand public, et c'est pour ça que c'est assez innovant. On a un bassin de 50 000 personnes, des personnes qui ne sont pas forcément concernées, où on n'a pas de problème virulent à traiter. C'est-à-dire aujourd'hui, la rivière va bien, la vallée va bien. On sait qu'il y a un manque d'eau, on sait qu'on a quand même des points à régler, nous, au niveau technique, mais dans le quotidien de chacun, globalement, on n'a pas de gros problèmes. Et ça, c'est aussi l'enjeu de la participation dans ce contexte-là, qui n'est pas facile.
Vous citiez le manque d'eau. C'est une problématique qui revient chaque été, et particulièrement à Die, avec les jardins du Perrier. Est-ce qu'il y a justement des propositions d'habitants autour de cette idée? Est-ce qu'il y a des propositions de préparer des réserves d'eau pour l'été, par exemple? Ou est-ce qu'il y a des idées de ce genre?
Alors c'est vrai que ça, c'est des problématiques typiquement que nous, on attend ou qu'on attendait par rapport aux canaux ou par rapport à ce que peuvent vivre des citoyens tous les jours autour de la rivière. Donc ces thèmes ressortent un petit peu dans les propositions d'action, effectivement. Donc soit recréer des réserves, il y en a qui parlent de barrages, il y en a qui parlent de l'agriculture, il y en a qui parlent de la baignade. Donc voilà, c'est vrai que le déficit quantitatif, donc le manque d'eau, ce qu'on appelle nous déficit quantitatif, il est présent. C'est pas une problématique seulement de cette année, c'est quelque chose de connu depuis des années, qui est envisagé par les représentants et les acteurs qui sont membres de la CLÉ, mais aujourd'hui, disons que les problèmes majeurs sont en cours de traitement ou sont en partie réglés. On fait ce qu'on peut, mais par contre, sur la partie citoyenne, on pense qu'on a un effort collectif à faire et individuel. Et c'est là que, je pense, le projet SPER aussi a son sens.
Est-ce qu'on peut citer quelques exemples à poursuivre ou initier ?
Là, le problème est majoritairement durant l'été. Donc là où on a une concentration, une augmentation de la population, on a l'irrigation qui arrive. Donc effectivement, une consommation raisonnée de notre eau, c'est évident. Remplir des piscines bien avant la saison estivale, si piscine il y a, ou limiter les piscines éventuellement. Donc c'est tout ce qui est en lien avec une consommation d'eau. Effectivement, des simples petits gestes peuvent beaucoup contribuer, effectivement.
Alors malgré la qualité de la rivière Drôme, est-ce qu'il y a quelques points noirs que vous mettez en évidence? Et est-ce que vous avez une réflexion sur ce point-là, par exemple?
Sur la qualité de l'eau?
Quelques points noirs par rapport à la qualité de l'eau, ou qui seraient facteurs de pollution, par exemple?
Alors, disons que moi, mon travail, je vais essayer de ne pas répondre au niveau technique, parce que là, ce n'est pas mon travail dans le cadre de SPER, mais on peut voir que sur la vie des citoyens, toutes les formes d'expression citoyenne qu'on collecte, le problème de la pollution est vraiment majoritaire. Alors que nous, au niveau technique, je dirais, le problème est plus au niveau de la quantité. On estime qu'au niveau pollution, on a fait de gros efforts. Il y en a toujours et les efforts sont toujours en cours, mais ce n'est plus un problème de pollution. Et c'est vrai que quand on regarde les expressions citoyennes, on parle énormément de pollution et de déchets.
Alors, l'expression populaire met en évidence quel type de pollution, par exemple ?
Alors, je dirais que ça parle beaucoup de déchets autour de la rivière, autour des accès, des points de baignade. Là, on a beaucoup ce qu'on peut appeler macro-déchets. Et puis après, il y a tout ce qui est en lien avec soit les pesticides ou pollution chimique. Mais on a un gros point, oui, de pollution, donc canettes, mégots, c'est souvent décrit.
Vous avez forcément des contacts avec les municipalités du domaine de la rivière. Comment ça se passe ? Est-ce qu'il existe une prévention à préparer pour la saison estivale ? Ou alors, est-ce qu'il y a des traitements beaucoup plus concrets ?
Disons que chaque année, depuis, il me semble, 4 ans, le syndicat mixte de la rivière Drôme prend à sa charge des volontaires d'unicité qui organisent des nettoyages de berges et puis qui mettent en place une communication spécifique sur la question des déchets. Ce travail est fait. Malheureusement, je dirais qu'il n'y a pas une énorme fréquentation de ces campagnes de ramassage. Peut-être que la campagne de communication n'est pas au top, mais on fait, disons, le maximum. Il y a d'autres initiatives citoyennes qui s'intéressent au nettoyage des berges et qui, elles, ont parfois, j'ai l'impression, plus de succès. Donc, disons que quelques formes d'initiatives qu'il y ait, qu'elles soient portées par le SMRD ou qu'elles soient citoyennes, toute forme de nettoyage de berges, c'est quelque chose d'intéressant et dans lequel, il me semble, il faut s'engager. Au-delà de prévenir à la source, évidemment, et de ne pas polluer.
Alors j'ai reçu il y a peu de temps, un groupe de lycéens qui présentait un programme pour un débat citoyen sur le consommer responsable. Est-ce que vous avez aussi peut-être l'idée de collaborer avec le lycée du Diwa, par exemple, pour la pédagogie ?
Alors, on intervient, donc Christelle Fermont, la directrice du syndicat mixte de la rivière Drôme, me semble, intervient. Et nous, les murs d'expression qui ont été réalisés lors de l'état des lieux citoyens, 3 murs d'expression ont été faits dans le lycée au collège d'Audi. Donc on a collecté beaucoup d'avis au niveau des citoyens du collège. Ça, c'était assez intéressant parce que c'est aussi une forme de prévention que de faire un point sur qu'est-ce que je ressens, où j'en suis, où sont les problèmes et d'en discuter entre nous.
Hormis ces dates pour les recueils de propositions d'habitants, il existera ensuite le dernier forum participatif le 24 mars à Saillant dans la salle Géraud. Et donc ça sera entre 9h30 et 17h. Et là, c'est toute la population du bassin drômois qui est invitée pour mettre un point final et de synthétiser cette démarche.
Alors, ce ne sera pas le forum de clôture, mais c'est bien le dernier forum de travail que l'on pense. C'est le moment où on propose d'assembler les actions en plan d'action, c'est-à-dire qu'une action seule, elle nécessite d'être intégrée dans un plan d'action, de savoir est-ce que c'est faisable et dans quel but, est-ce que ça répond bien aux besoins de la rivière ou aux besoins des uns et des autres. Et donc cette journée, elle est dédiée à ça, à la construction des plans d'action. Elle aura lieu à la salle Saint-Géraud à Saillant et ce sera le dernier forum de travail. Après, il est prévu, mais les dates ne sont pas encore fixées, un forum de clôture. Et évidemment, après, cette matière part dans la commission locale de l'eau et son chemin n'est pas terminé.
On va passer, pour continuer, aux 4 autres pays qui participent à ce projet SPER. Donc, les démarches actuellement chez eux sont similaires ?
Le projet SPER, une de ses ambitions, c'était de tester ces formes innovantes de participation dans différents pays en même temps. Il s'avère que dans la réalité, 2 ans et demi après le démarrage, ou 2 ans après le démarrage, on a des réponses très différentes en fonction des pays. On peut déjà dire que la Drôme, on est le plus avancé, parce que je pense que nous, on a eu un soutien politique, ou au moins une écoute des élus, qui étaient favorables ou qui avaient envie de tester ça, ces formes de participation citoyenne. Ce qui n'a pas été le cas, malheureusement, de certains autres pays. Je pense à nos collègues italiens qui font face à d'autres pressions. parce qu'on est dans un contexte où l'hydroélectricité, par exemple, est très très présente, où il y a un monopole sur place. Et le dialogue, ne serait-ce qu'entre l'entreprise et les gestionnaires, n'est pas facile. Et d'intégrer cette fois-ci les citoyens, c'est une étape pour laquelle le territoire n'est pas prêt, il nous semble. Donc eux font face à des vrais freins, des verrous politiques. Sur d'autres, on prend nos collègues slovènes qui sont dans une autre forme de gestion de la rivière. Eux, c'est une gestion par une fondation sur la rivière Socha, donc Socha River Foundation. Et eux travaillent un petit peu plus finement avec les citoyens parce que déjà, la gestion de la rivière est faite par tronçons. Il y a des tronçons dédiés au canoë, des tronçons dédiés à la baignade et des tronçons dédiés à la pêche ou à l'hydroélectricité. Donc on voit différentes formes de gestion. Et là, c'est assez intéressant, mais on peut par exemple citer que le canoë est payant chez eux. L'accès à la rivière est payant, ce qui permet de mettre en place une gestion des poubelles ou une gestion des accès, un nettoyage des berges correctement. Donc voilà, on voit des différences. Et pour eux, je dirais que c'est assez avancé, le dialogue est possible et se fait assez bien sur place. Pour nos collègues suisses, c'est une fondation privée qui porte le projet et donc qui a un engagement très porté vers la conservation et naturaliste. Et donc du coup, ils mettent en place des activités, mais pas facilement. Ils font un petit peu face à des résistances au niveau local aussi. Sur les collègues autrichiens, là, c'est une expérimentation à l'échelle quasi d'un équivalent département, la Haute-Autriche. Donc on est sur un bassin encore plus grand et ils organisent des dialogues de rivières. Et la démarche, je dirais, est plus informative. Elle n'est pas trop engagée au niveau participation.
Ce sont des structures très différentes de par leur conception. Comment vous arrivez, malgré tout, à trouver une synthèse entre vous ?
Alors, il y a la conception du projet qui est faite par... on a des interlocuteurs communs. Et puis aussi, tous les 6 mois, on se retrouve dans un des pays. Et donc, pour faire le point sur nos avancées, traiter toutes les questions budgétaires, organisationnelles. Et puis, on visite. Parce que c'est aussi intéressant, je pense, la directrice Christelle Fermont du syndicat mixte de la rivière Drôme vient aussi, m'accompagne quand elle peut. Et là, on rencontre d'autres gestionnaires, d'autres manières de gérer. Et c'est vraiment intéressant sur la question culturelle. On voit qu'on a d'autres approches sur les rivières, même si on est lié par des réglementations européennes.
Vous parliez du cadre, je crois que c'est l'Italie où il y avait des tronçons. Non, c'est en Slovénie où c'est payant.
Il y a des tronçons payants, oui.
Voilà, c'est ça. Ça veut dire une privatisation de la rivière ?
Une forme de, qui a été... Alors, c'est pas si simple que ça, hein, parce qu'on a tout un contexte organisationnel de gestion des rivières qui est très différent de la France, mais c'est une forme de, sachant que quand même, dans la fondation soi-disant privée, elle est gérée en concertation avec les professionnels, les usagers et très peu finalement services de l'État. Donc c'est plus une gestion très locale.
Parce qu'il n'y a aucun engagement de l'État, pour ainsi dire.
Disons qu'ils sont contraints à des réglementations européennes, mais ne semblent pas y répondre franchement.
Voilà, donc à contrario d'ici, hein, où l'État a beaucoup investi, et j'espère qu'il va continuer, on peut être rassuré, on n'envisage pas une privatisation de la Drôme quand même.
Non, pas du tout. Non, aujourd'hui on est bien à un stade où on collecte les envies, les idées, et on détecte aussi les points qui ne fonctionnent pas. On a la chance d'avoir un bassin versant qui est plutôt en forme et avec un bon vivre, un bien vivre. On essaie juste d'affiner ça, même si le déficit quantitatif, donc le manque d'eau, reste quand même un point de vigilance.
Je suppose qu'il y a aussi d'autres structures qui réfléchissent dessus. Cette baisse de l'eau, est-ce que vous envisagez des programmes ou peut-être des projets pour mieux la canaliser, ou alors comment remédier à ce problème ?
Alors là, la commission locale de l'eau qui œuvre depuis les années 90 travaille en fait depuis ce temps de longue haleine sur des projets et étudie effectivement des manières avant tout de réduire par exemple les pompages en rivière, ce qui était un problème prégnant dans les années 90. Donc depuis, il y a eu un transfert des eaux du Rhône pour les irrigants de Laval. Donc voilà, des réponses techniques sont là, d'autres sont encore à l'étude parce que ce n'est pas suffisant. Donc d'autres, pour la réponse agricole, il y a d'autres questions qui sont en cours. Et puis après, il y a les efforts des uns et des autres sur tout le bassin, parce qu'on partage ces taux ensemble. Donc il y a plusieurs propositions, il y a plusieurs échelles de réflexion. Et effectivement, c'est une question qui est toujours en réflexion et en construction.
Vous-même, vous êtes, je ne sais pas si tu vis dans le Diois, par contre, cet attrait pour l'eau, c'est quelque chose qui t'a attiré depuis longtemps ?
Disons que oui, je suis de formation hydrogéologue, donc je suis formée pour étudier de manière physique l'eau souterraine en l'occurrence. Et puis, de par ce métier, j'ai surtout compris que l'eau, c'est quelque chose de vivant et avant tout que l'on partage entre usagers, et la dimension physique n'est pas suffisante. Donc c'est pour ça que après je me suis formée sur les parties processus participatif pour mieux intégrer les personnes qui vivent l'eau, quand on parle de la participation dans la gestion de l'eau. Mais ça peut être pour n'importe quelle ressource, l'usager finalement, on s'intéresse à l'usager.
L'eau qui est dans la Drôme est originaire de toutes ces montagnes qui nous environnent. Mais on peut connaître les quantités en fonction de chaque partie du Diois.
C'est pas si simple. On a effectivement l'eau de surface et, comme je le disais là, l'eau souterraine qui, elle, est difficilement quantifiable et nécessite un suivi spécifique et parfois coûteux. Donc le syndicat mixte de la rivière Drôme a engagé ces dernières années ce qu'on appelle un PGRE, un plan de gestion de la ressource en eau, qui a pour but d'essayer d'évaluer l'eau disponible en surface ou en souterrain pour savoir un peu dans quel scénario on va pour l'avenir. Donc ce PGRE a été réalisé, il est sûrement en ligne d'ailleurs sur le site internet. Et à partir de là, on a une sorte de base de connaissances, mais ça reste quand même des sciences de la terre ou des sciences de la vie, où on a... pas une connaissance parfaite, notamment sur la partie souterraine où on pense ce volume d'eau, mais même si aujourd'hui les données sont de plus en plus précises.
Ça, c'est un travail de terrain ou alors aussi d'application logicielle pour reconstituer un modèle de rivière.
Alors on a la partie terrain, tout ce qu'on peut mesurer, on le mesure de manière physique, et ça c'est vraiment la partie la plus consolidée. Et puis après, sur les parties où on n'a pas accès à la donnée, on ne peut avoir recours à des logiciels de modélisation, et effectivement avec des limites et parfois des erreurs aussi.
Il y a une grande part d'aléas alors dans l'eau.
L'eau étant un élément naturel, on est dans des aléas naturels, je veux dire. Effectivement, on ne maîtrise pas complètement la nature.
Et donc, toute cette démarche du SMRD et du projet SPER, c'est d'amener une eau claire et limpide. C'est peut-être un pléonasme. Mais en final, pourquoi ?
Disons que le rôle, une des missions principales du syndicat mixte de la rivière Drôme, c'est de gérer donc la rivière et le bassin. Donc c'est pas seulement de la rendre claire et limpide, parce que là on a des stations d'épuration qui s'occupent de l'eau usée, après on a le sol qui fait son rôle, mais là on a vraiment aussi cette dimension humaine d'articuler les usages et les enjeux des uns et des autres. On parle de l'agriculture, on parle du tourisme, on parle des habitants. Et là, effectivement, aujourd'hui, quel bassin on veut pour demain ? Parce que demain, il faut qu'on partage cette ressource, même à l'échelle locale du Diwa, mais tout comme sur tout le bassin jusqu'à la confluence avec le Rhône. Et cette ressource, comment on la partage ? Et là, on n'est plus que sur une gestion physique, mais on est bien sur des discussions. Et c'est pour ça qu'avec le projet SPER, on s'intéresse à quels sont les processus de décision et comment on intègre la vie des uns et des autres.
Alors, la vie des uns et des autres, est-ce qu'on peut-être globalement donner une idée de ce que la population désire de sa rivière ?
Les enjeux, les plus cités, on n'en est pas à ce qu'elle veut, mais les enjeux les plus cités, comme je le disais, c'était beaucoup. Alors, c'est un petit peu biaisé par rapport au fait qu'on a collecté la donnée entre mai et octobre, donc beaucoup autour de la rivière et des loisirs, beaucoup autour de la pollution, des inquiétudes un petit peu au niveau de l'inondation, des inquiétudes sur le milieu, la protection des milieux. On questionne les accès à la rivière, donc ça, c'est les données qu'on collecte aujourd'hui. Des questions sur l'agriculture aussi. Mais globalement, on a des avis, on va dire, différents sur tout le bassin.
Est-ce qu'il y a des avis parfois peut-être impossibles à appliquer ?
Oui, évidemment. Nous, le but dans le projet SPER, c'était avant tout de collecter sans filtre les avis des uns et des autres. Parce qu'on aurait pu imaginer, se dire, on fait un cours sur l'eau, la rivière, on vous donne toutes les données et après vous réfléchissez. Là, vraiment, on était intéressé à collecter la matière vivante telle qu'elle était, sans apport de matière. On a des batteries d'études, de données sur le bassin, mais là, le but, c'était vraiment de collecter à vif, quand on regarde ensemble la rivière, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit ? Et aussi de réaliser qu'on est différent. Parce que partager une ressource ensemble, c'est aussi comprendre qu'on est différent et qu'on ne voit pas les choses de la même manière. Et ça, c'est vraiment important pour après aller vers une décision ensemble, quoi.
Alors je reviens après avec ce conjointement de 5 pays autour de ce projet. Est-ce que vous seriez peut-être, je parle de l'ensemble du projet, est-ce qu'il y aurait des vues de développement dans l'avenir autour de toutes ces rivières alpines ?
Là, le projet Interreg, comme Inter pour interrégional, on s'intéresse à l'arc alpin. L'arc alpin, lui, c'est un objet d'étude parce qu'effectivement, les rivières alpines ont des typologies ou des problématiques ou même des formes d'habitat qui sont à peu près similaires. Enfin, en tout cas, on l'estime comme ça dans les études. Donc, il y a aussi, dans le projet SPER, la partie participation citoyenne, on l'aura compris, mais il y a aussi des volets d'études de ces rivières sur l'aspect physique, sur le partage des données et des choses comme ça, oui.
Et justement, je voulais savoir, quelle est la part du privé dans l'investissement pour l'amélioration des rivières alpines ?
Alors, je ne saurais pas vous répondre. Nous, sur la partie locale SMRD, on n'a pas de financement privé avec nous. Disons qu'on n'a pas tous les mêmes financements chez les autres partenaires. Disons que les financements autour du projet SPER sont principalement des fondations et qui sont plus portés vers la conservation et la préservation des rivières que sur leur exploitation. La dimension européenne, c'est une dimension qui est assez passionnante et on réfléchit notamment sur la partie de clôture du projet, de faire intervenir nos collègues ici pour qu'ils puissent eux-mêmes essayer de transmettre leur expérience et qu'on ait vraiment différentes voix qui puissent s'exprimer.
Voilà, il y a des échanges entre les partenaires de tous ces pays, donc pour améliorer et d'échanger, enfin d'améliorer les démarches autour de ce programme.
Effectivement, c'est des échanges, nous, quasi quotidiens les uns avec les autres. On a différentes problématiques à traiter dans le projet SPER. Et en ce moment, on réfléchit à cette cet événement autour de comment gérer les rivières et comment elles sont gérées dans ces différents pays pour se rendre compte de cette différence culturelle et de voir un peu, de s'ouvrir un petit peu les horizons pour se dire on peut faire autrement aussi si besoin. Et...
Alors, ce projet SPER, donc, avec la prise en compte des avis de la population, se termine donc fin 2018. Le projet SPER lui-même, a combien d'années encore devant lui ?
Alors, il finira en 2018 sur ses financements, donc un projet Interreg de 3 ans. On aura fin 2018 la clôture de ce projet. On a prévu 6 mois pour traiter correctement les données et puis essayer de finaliser correctement. On sait qu'il y aura un après-SPER dans le sens où l'expérience vécue ici par le SMRD et le bassin a forcément changé. Nous, par exemple, on peut parler SMRD que jusque-là, on n'avait pas à accueillir du public dans nos locaux, on n'avait pas à forcément dialoguer en direct avec les citoyens. Et tout ça a provoqué des changements dans l'organisation interne. On a vu que on ne mettait pas forcément tous les documents systématiquement en ligne, mais pas par envie de cacher, mais par manque de vigilance. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on doit être encore plus vigilant sur l'information du public. Et ça, c'est des choses qui vont rester, je pense.
Alors, le résultat de ce travail sera une proposition dite consultative, mais vous ne pouvez pas imposer des conseils.
Alors, le syndicat mixte de la rivière Drôme continuera son travail de gérer la rivière après SPER. Nous, la différence, c'est qu'on aura pas seulement une consultation. Disons qu'au début du projet, on a fait signer à la commission locale de l'eau par ses membres une charte d'articulation du projet avec la commission locale de l'eau. Et dans cette charte, il est écrit que la commission locale de l'eau devra et prendra en compte les résultats de ce projet pour la révision du SAGE, donc du schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Donc, dès lors qu'on finit le projet, toute la matière synthétique qu'on aura, ou même brute, sera transmise dans les commissions de travail de la CLÉ. Pour dire, il y a à peine 2 semaines, la révision du SAGE a commencé par l'état des lieux du bassin, donc par la première réunion de travail de la CLÉ autour de la réunion de l'Observatoire de la CLÉ. Et donc là, il a été annoncé qu'on intégrerait l'état des lieux citoyens dans ce travail-là. Donc c'est déjà en cours en fait. C'est déjà une partie, les premiers travaux sont déjà transmis aux élus. Et on est déjà en train d'en discuter dans les commissions. J'ajouterais juste que le jeudi prochain, le 1er février, on sera présent aux rencontres de DIE, Écologie au quotidien, à 10h, pour présenter les premiers résultats et éventuellement aussi collecter à nouveau des propositions d'action. Donc si vous voulez... Vous pourrez participer donc à 10h, jeudi matin, le 1er février, à 10.
Claire, vous êtes originaire du Diwa ou du coin ?
Alors moi, je suis doubiste. Doubiste du Doubs. Je viens du Haut-Doubs et j'ai l'impression... Enfin, je vis ici depuis quelques années et je dis souvent c'est le Doubs au soleil. La moyenne montagne calcaire avec de belles rivières.
D'autant que je crois qu'il y a des inondations dans le Doubs en ce moment. Voilà. Et vous parliez d'inquiétude d'inondations pour la Drôme. C'est une réalité, ça ?
C'est une réalité, mais qui n'est pas forcément prégnante dans le Diwa. Je dirais, effectivement, ici, on est dans la partie amont du bassin. Et comme généralement en amont, on ne ressent pas le risque d'inondation. Mais il ne faut pas oublier tous les collègues du bassin qui vivent en aval, à Livron, sur les communes de Livron et L'Oriole, qui probablement sont déjà touchés par les inondations aussi du Rhône. Et donc effectivement, sur la partie Drôme, quand le Rhône déborde, généralement la Drôme suit et ils sont effectivement contraints et ils font face à des inondations ou au risque d'inondation. Voilà. Et puis j'ajouterais que sur la partie inondation, donc il y a la partie aval très touchée, qui peut être très touchée, puis il y a aussi la partie tout au long du linéaire de la Drôme où on peut avoir des terrains qui peuvent se décrocher du risque plutôt érosif au niveau des érosions.
Le tourisme autour de la rivière, quel est son apport pour sa qualité ?
Je ne sais pas s'il y a un énorme apport du tourisme. Je ne sais pas si c'est un apport pour la rivière. Disons qu'il y a un impact. Et actuellement, il y a une étude portée par le SMRD sur l'impact des sports de loisirs ou des activités de loisirs autour de la rivière qui est en train de se finaliser. Parce que tout autant la baignade que les canoës, il y a un impact. Il y a donc beaucoup de... Il y a des petits barrages, ne serait-ce que souvent on parle des petits barrages, mais il y a un impact énorme sur la rivière, sur les poissons ou toute la vie autour de la rivière. Les faibles débits avec les canoës ou la baignade peuvent avoir un impact. Et aujourd'hui, on s'intéresse tout doucement à cet impact-là. Et puis, il y a les impacts indirects, pardon. C'est évidemment tout ce qui est prélèvement avec l'augmentation de population, avec prélèvement pour les campings, les gîtes et toute structure de logement.
Claire, je voulais savoir, est-ce que tu t'es intéressée à l'histoire de la Drôme depuis un certain nombre de siècles? Et est-ce que tu as pu voir l'exploitation qui en était faite? Et ce qui a disparu aujourd'hui, par exemple, on pourrait peut-être le citer?
Alors effectivement, je m'y intéresse et puis je pense qu'avec avec ce travail à travers SPER, c'est très intéressant aussi dans ma posture. J'écoute beaucoup d'histoires des uns et des autres et ça c'est aussi passionnant. Donc l'histoire de la vallée, elle est présente notamment dans les récits des uns et des autres en lien avec l'eau, sur la partie d'Oise aussi. Et on voit que ne serait-ce que l'évolution des forêts ou l'évolution des petits canaux ou l'évolution... Avant, on avait des petits bras de rivières qui étaient là, qui ont aussi disparu. Donc je peux juste constater, il y a l'effet mesuré, puis il y a l'effet vécu qui est différent, les anciens barrages. Et c'est des moments qui ont marqué en fait les consciences. Donc c'est très passionnant, évidemment, ça m'intéresse.
Ma question était de savoir si la Drôme, jusqu'au moins à 10, était une zone navigable. Et je pense à ça parce que je me questionne. Oui, parce que au musée de Die, il existe un ex-voto. Et le directeur me disait que c'était les bateliers de la Drôme qui s'étaient confectionné ça. Donc je m'imaginais, en étant à Die, est-ce qu'il y avait des zones navigables jusqu'à l'embouchure du Rhône, hein, par exemple?
Probablement, mais il y avait quand même le barrage de Saillant. Donc navigable jusqu'à l'embouchure, je ne sais pas. En tout cas, il y avait une vie industrielle et une dépendance à l'eau qui était différente qu'aujourd'hui, effectivement. Aujourd'hui, on est plus sur des versions touristiques ou de loisirs. Il y avait une dépendance économique beaucoup plus forte aux rivières avant, c'est certain.
Et d'où la problématique de ces lits de la Drôme qui sont sans cesse modifiés par les courants. Donc il existait certainement un entretien du lit pour pouvoir naviguer. Je ne sais pas si c'est une fausse idée que je me fais.
Alors il pouvait, je ne suis pas spécialiste de la question. Ce que je sais, c'est qu'il y avait les canaux et les canaux dans les villes, et notamment à Die, étaient beaucoup plus... était réellement exploité pour toutes les usines et l'industrie autour. Et là, de là, on avait une gestion fine et une dépendance à l'eau. Sur la navigation, je ne suis pas certaine et je suis désolée de ne pas avoir l'information.
Voilà, donc une question...
Qui reste en suspens.
Oui, toujours. Bah, c'est pas grave. Moi, je pense qu'on a tout vu hein, cette fois-ci. Et puis, je te remercie en tout cas, Claire, d'être venue pour nous parler du SMRD avec le projet SPER. Et puis, au plaisir de vous entendre bientôt, de nouveau.
Merci à vous pour l'accueil.
Voilà, pour nous donner peut-être une synthèse de ce forum qui aura lieu donc le 24.
Merci.
Allez, bonne fin de journée.
À bientôt.
Au revoir.
Interview. 1 Terre. Okay. The bird.